écoutez l'émission À nos mémoires, le portrait de Jean d'Issy, que vous pouvez écouter tous les jeudis à 12h35, avec une rediffusion le dimanche à 12h. L'émission vous est présentée par Jean-Paul Damaggio. Bonjour, nous poursuivons notre petit voyage à travers les gens d'ici et les territoires d'ici par cette petite commune qui n'a pas de village et qui s'appelle Queyrac. Au premier abord, évidemment, il n'y a strictement rien d'original dans une telle commune. Et pourtant, c'est là qu'a vécu, à la fin de sa vie, le dénommé abbé Marcellin, qui était né en 1806 et qui est décédé donc à Queyrac en 1888. Pourquoi, franchement, pourquoi s'arrêter sur l'abbé Marcellin? Il est né à Montauban, il avait comme vrai nom Joseph Génon, et il fut un prédicateur national et international. Il fut un écrivain de talent. Il fut, écrira le maire au moment de son décès, et sous la dictée du curé de Réalville, un prêtre libre. Qu'est-ce que ça pouvait bien être, en 1888, un prêtre libre? Pour comprendre l'originalité assez unique de l'abbé Marcellin, je donne d'abord la parole à René Moriès, qui était un grand reporter à la Dépêche et qui parla beaucoup de l'abbé Marcellin dans son livre posthume qui s'appelle « Le maître de mes secrets ». C'est un roman qui est surtout consacré à celui qui fut le secrétaire de Talleyrand et qui s'appelait Jacques d'Or, un personnage qui s'est suicidé au château de Peine. René Moriès indique au sujet de l'année 1848, là c'était la Révolution, il indique au sujet de l'abbé « Incarnation brûlante de son temps, rayonnant de charisme, virulent pourfendeur des privilèges et des injustices. L'abbé Marcellin prêchait sans relâche la puissance socialisante du christianisme. Si catholiques et protestants se pressaient pour entendre ses appels à la tolérance, à la fraternité, il irritait de plus en plus les autorités par la dénonciation du crétinisme politicien de tous bords et l'étalage d'un certain saint-simonisme. Aussi, en 1848, l'abbé Marcellin fut victime d'une impitoyable coalition pour lui barrer la route de la députation. Il y avait 6 sièges à pourvoir en Tarn-et-Garonne. Le scrutin ne le plaça qu'en 20e position avec 5094 voix contre 42 000 au premier élu. Le sixième en avait 19 000. Vous voyez que Marcellin était loin du poste de député. Ce qui fait que, après cet échec, l'abbé Marcellin, et c'est toujours René Moriès qui parle, l'abbé Marcellin reprit alors son envol de chair en chair en France et à l'étranger, à l'écoute des hommes de toute classe, race et couleur. De passage, à l'été de 1850 à Baden-Baden, il vit venir à lui une duchesse de Dinant, toujours impitoyablement belle, qui s'empressa de solliciter sa bénédiction et son appui. La duchesse de Dinant, c'était la compagne de Talleyrand, personnage très important dans la vie, on va dire, de ce début du 19e siècle. Donc, par ce portrait de René Moriès, vous avez un petit peu déjà un aperçu de qui était l'abbé Marcellin. À la fois personnage national, international, et à la fois prêtre engagé aux côtés des pauvres. Quand l'abbé Passerat le présentera dans 800 auteurs, il indiquera que l'abbé Marcellin mérite bien le titre de l'accordaire montalbanais. Chacun sait qu'à cette époque-là, en 1848, il y avait deux courants dans le catholicisme de gauche, celui de l'accordaire, celui de l'amené. Bon, l'abbé Marcellin était un petit peu dans le, on va dire, dans le courant de ces deux personnages de référence. Alors, il meurt en conséquence, et c'est là-dessus que je vais centrer un petit peu ma présentation de l'abbé Marcellin, à qui j'ai consacré une petite plaquette. Il meurt à Cayrac, le 19 novembre 1888, à 5 heures du soir. Et devant le maire, Jean Rascouaille, le premier témoin est un chevalier de la Légion d'honneur, habitant de Réalville, ancien capitaine en retraite, Charles Peset. Le deuxième, c'est M. Géraldi Alphonse, âgé de 38 ans, curé du village. Ils vont demander au maire d'écrire ceci. Est décédé Joseph Génon, dit Marcelin, 82 ans, prêtre libre, demeurant à Bellerive, sur la commune de Cayrac, natif de Montauban, en tant que fils de Marcelin Génon et Antoinette Pradal. Et pour être précis, le maire ajoute, l'abbé est décédé dans la maison de M. Garrison, 6 à Bellerive. Voyez, peut-être l'originalité, si vous vous souvenez que la famille Garrison est une famille de protestants, un petit peu quand même original, qu'un prédicateur catholique passe les 20 dernières années de sa vie gratuitement dans la maison de la famille Garrison. Et ça indique tout de suite le côté surprenant, très surprenant de l'abbé Marcelin. Les surprises ne s'arrêteront pas là d'ailleurs, puisque la seconde surprise, c'est le lieu où il demande à être enterré. Il demande à être enterré, non pas dans le cimetière tout proche de Réalville, mais dans un cimetière reculé dans les hameaux qui s'appelle Saint-Martin de l'Astour. Un peu comme si l'abbé Marcelin, qui vivait depuis 20 ans loin de la société, avait tenu à rester à l'écart du monde, même mort. Cette originalité se double d'une supplémentaire, c'est qu'il avait fait construire son tombeau comme une maison. Grâce à des personnes attentives à la question et qui habitent à côté du cimetière de Saint-Martin-de-l'Astour, cette tombe a été un petit peu rénovée. Donc c'est le toit de la tombe, c'est un toit avec deux pentes, un petit peu comme une maison. Il avait donc un petit peu tout prévu quant à sa mort. Et c'est Émile Pouvillon, l'auteur bien connu, qui nous permettra de comprendre les derniers instants de la vie de ce prêtre aux dimensions internationales, mais replié comme une ermite au bord de l'Aveyron à Bellerive. Pouvillon indique, à ce moment-là, il va le voir, l'abbé Marcelin cultive son jardin, il s'est coupé du monde, et Pouvillon donc le présente ainsi, il se penche sur les jeunes pousses du jardin, il enlève quelques mauvaises herbes envahissantes, se relève et peste contre l'humanité tout entière. En fait, Marcelin lui expliquera que si je n'avais pu finir ma vie à la campagne, je serais mort enragé. Pourquoi ce prêtre qui a couru le monde était-il devenu un enragé? Pouvillon, toujours lui, rappelle ses débuts prestigieux, sa montée rapide dans la gloire et le brusque plongeon de la fin. La disparition subite dans l'obscurité de son demi-exil. Ce lutteur qui est engagé à la fois sur le plan social et sur le plan religieux, eh bien, ce lutteur n'a pas pu se plaire dans le Second Empire. Le Second Empire qui va donner à la religion catholique tout le pouvoir à la haute hiérarchie et non pas au curé populaire, et qui va en même temps couper le peuple de tous ses droits sociaux. Pour poursuivre la présentation qu'en a faite Pouvillon, voici ce qu'il indique. Son palan d'homme de 82 ans reste sûr. Sa charge, cependant, lui impose un arrêt sur le banc de pierre où il médita si souvent. Il case à ses pieds un seau métallique garni de braises qu'il tenait à la main droite, puis écoute le silence environnant. Une douce chaleur sort du seau. Un vent léger lui apporte le bruit étouffé de la chaussée du moulin tout proche et du train, qui passe parfois dans le lointain, vient le son de la modernité. L'abbé scrute la plaine à travers les troncs d'arbres dénudés de sa belle allée. Ce jardin disparaît sous les feuilles mortes. Il pose alors son regard sur un tas de papiers formés de dossiers de sa bibliothèque. Cette scène est une scène totalement émouvante, puisque c'est la scène où, trois jours avant de mourir, l'abbé Marcellin va brûler les papiers de sa bibliothèque. Pourquoi cet homme qui a écrit tant et tant, qui a sans doute des documents de très grande valeur, pourquoi a-t-il décidé de tout brûler? Bon, certains pensent qu'en vérité, tout n'a pas été brûlé, mais le témoignage de Pouvillon est quand même très précis. Sur cet événement, Pouvillon dit qu'il est entré une fois dans la bibliothèque de l'abbé et il a vu le tiroir aux manuscrits. Il a vu les 40 ans de travail, de méditation et de recherche. Et tout ça a été jeté au feu dans une minute d'humeur suprême, dans une minute d'amertume. Qui pourrait le dire ? On va essayer de comprendre comment l'abbé Marcellin va se couper du monde, se couper de la vie, et va essayer d'effacer toute trace de son activité après la petite pause musicale. Retrouver avec cette question, comment l'abbé Marcellin a-t-il pu en arriver à brûler ses archives, ou du moins une partie de ses archives. Alors, je ne vais pas pouvoir, bien sûr, faire l'inventaire de toutes ces actions qui commencent en 1831, après la révolution de 1830, il y a des éléments aux archives départementales, des éléments à la bibliothèque municipale de Montauban, et en particulier un citoyen de Nègreplisse a eu la bonne idée de conserver des documents de 1831, 32, 33, où il est question de l'abbé Marcellin, parce que faute d'avoir les textes de l'abbé Marcellin, on était obligé d'essayer de se rapporter aux témoignages des autres. Il existe cependant des éléments laissés par l'abbé, en particulier l'histoire de Montauban de Lebret. Bon, cette histoire qui a été écrite avant la Révolution, c'est vrai que l'abbé Marcellin avait décidé de la rééditer, mais qu'il l'a fait rééditer en y apportant ses vues aussi personnelles, ce qui lui a été reproché. Ce qui fait que quand on se plonge dans cette histoire de Lebret, il faut la lire avec attention pour comprendre ce qu'a pu y apporter l'abbé Marcellin. Mais pour sortir du Tarn-et-Garonne, je vais donner un exemple d'une polémique qui s'est déroulée à Toulon, et plus précisément à Hyères. C'était en 1842, au moment des fêtes de Pâques. Un journal, qui s'appelait là-bas le Toulonnais, va dénoncer l'action qu'a eue l'abbé Marcellin dans la ville. Et l'abbé Marcellin, grâce au courrier du Tarn-et-Garonne, va pouvoir répondre. Et c'est vrai que dans le courrier du Tarn-et-Garonne, qui va commencer à exister à partir de 1840 ou 1842, j'ai plus la date exacte en tête, mais au départ, l'abbé Marcellin y trouvera pas mal de pas mal de places. On peut et on trouve un certain nombre de ses écrits dans ce journal-là. Mais voyons d'abord ce que dit l'article du Toulonnais, qui essaie d'expliquer la situation à Hyères. Hyères, donc, c'est une ville antique, avec des rues étroites et sales autour du vieux château, là où est le peuple, c'est-à-dire dans la partie haute de la ville. Et puis, la plaine, c'est le domaine des familles riches qui font réouvrir une église en bas, qui s'appelle l'église Saint-Louis. Et depuis la réouverture de l'église Saint-Louis, un vicaire va dire tous les dimanches une messe basse à Saint-Paul, qui est en haut. Alors, c'est un petit peu l'inverse, normalement. La classe haute vit en haut, la classe basse vit en bas. Mais là, ailleurs, la géographie est inversée. Et vous allez comprendre que cette question n'est pas anecdotique pour ceux qui nous occupent. Voici le propos même du journal. Un prédicateur de grand mérite, monsieur l'abbé Marcellin, que les fidèles ont pu admirer dans l'église Saint-Louis pendant le carême, fut appelé à Hyères. Et comme on doit penser, il ne monta pas à Saint-Paul. Or, un soir de prédication, on s'aperçut que les chaises manquaient à Saint-Louis. Les accusés, qui ont lancé des pierres, qui sont au nombre de 12 ou 13, avaient pris pour défenseur Maître Tourel, dont la plaidoirie brillante a captivé pendant une heure l'attention de nombreux auditoires. Il n'est pas besoin d'ajouter que le tribunal, présidé par M. Clapier, a renvoyé les enfants à l'école. Bon, là, jusque-là, vous n'avez pas trop pu suivre l'affaire, si ce n'est qu'il y a eu une émeute. Une émeute quand ceux d'en bas, de Saint-Louis, sont allés chercher des chaises chez ceux d'en haut, à Saint-Paul. Ils ont été accueillis par des jets de pierre et les 12 ou 13 garnements ont été jugés. Mais que va répondre l'abbé Marcellin? Parce que le Toulonnais, il va répondre, le Toulonnais, fort innocemment, je le crois, semble m'accuser aussi d'avoir partagé les dédains de la fashion, un terme anglais, de la fashion hiéroise pour l'église de la haute ville. Comme on doit penser, dit le journal, monsieur l'abbé Marcellin ne monta pas à Saint-Paul. Et Marcellin rectifie, il fallait dire, ne prêcha pas à Saint-Paul. Car moi, l'abbé Marcellin, je suis monté à Saint-Paul par des rues sales, étroites, tortueuses, horriblement mal pavées, soudées aux flancs de granit de la montagne. Je visitais l'édifice en détail, je parlais ensuite dans l'église où l'auditoire m'attendait et revins immédiatement ensuite à Toulon. Cette petite anecdote, c'est pour bien montrer que ceux qui sont en bas et qui sont l'église des riches ont considéré qu'ils avaient invité l'abbé Marcellin, mais ils ne l'avaient pas invité pour qu'il aille intervenir auprès des pauvres de l'église d'en haut. Marcellin rectifie qu'il est monté aussi voir les pauvres, qu'il a vu comment étaient les rues, qu'il a vu comment était la situation. Et lui, au bout du compte, il excuse tout à fait les jeunes qui s'étaient un petit peu révoltés parce que on venait prendre des chaises pour ceux d'en bas, eux qui d'ailleurs manquaient déjà de chaises. L'abbé Marcellin était donc ainsi. Il était, dès 1842, du côté des pauvres, du côté des sans-grades, du côté de ceux qui n'avaient rien. Et c'est ça qui explique que, quand il a compris qu'au bout du compte, il ne pourrait pas changer le monde, quand il a compris que ses prêches, ses actions, ses interventions politiques était totalement inutile, il s'est retiré, il s'est replié et il a voulu s'effacer. Il a voulu s'effacer, sauf que une énigme reste, une énigme de René Moriès, une énigme qui était chère à René Moriès, dans ce passé un petit peu énorme de l'abbé Marcellin, il y avait ce fameux d'or. D'or, je le rappelle aux auditeurs, c'est un Tarn-et-Garonnais qui a permis l'existence de la Belgique. Évidemment, il y en a qui vont dire, oui, Damajo, il exagère, une fois encore. Sauf qu'il faut aller regarder les documents d'histoire. Comment a été créée la Belgique? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Donc, la Belgique a été créée à Londres, dans des négociations où il y avait Talleyrand et les Anglais. Est-ce que la Belgique allait tomber sous la domination de la France? Ou est-ce que la Belgique allait rester sous la domination des Anglais? Il a fallu une négociation très, très ardue. Et au dernier moment, c'est Jacques d'Or hein, qui a trouvé un compromis. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que nous avons un roi en Belgique et non pas une république. Jacques d'Or, après cette action glorieuse, est venu se suicider à peine. Et il était en vérité l'amant de la duchesse de Milhaud, qui était la compagne, entre guillemets évidemment, de Talleyrand. Le mystère, c'est qu'on dit que l'abbé Marcellin s'est fait enterrer à Saint-Martin-de-Lastour, dans un coin tranquille, parce qu'il avait promis que, à la mort de l'abbé Marcellin, le cercueil de Jacques d'Or rejoindrait le cercueil de l'abbé à Saint-Martin-de-Lastour. René Moriès était un grand journaliste. Il a fait un roman. Donc, par conséquent, il y a une dimension, on va dire, un petit peu de fiction. Mais je pense que, de toute façon, dans l'esprit, l'abbé Marcellin était resté jusqu'au bout l'ami de Jacques d'Or. Et ce fut aussi là un des moments cruciaux de sa vie quand il a vu ce jeune, qui était un jeune comme lui, issu de l'artisanat montalbanais. Un jeune qui, comme lui, avait réussi à gravir les échelons de la gloire jusqu'à devenir le secrétaire de Talleyrand. La semaine prochaine, eh ben, nous découvrirons un autre réalvillois qui s'appelait Goulina. Merci. Vous écoutez l'émission À nos mémoires. Le portrait de Jean d'Issy, que vous pouvez écouter tous les jeudis à 12h35. Avec une rediffusion le dimanche à 12h. L'émission vous est présentée par Jean-Paul Damagio.